Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les mardis, c'est l'actualité des expositions. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'arrête à Aix-en-Provence pour l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur. Ça se passe à l'hôtel de Caumont, 130 œuvres, dont de nombreuses appartiennent à des collections privées, des tableaux, des sculptures, des céramiques, et un titre qui explique très bien la scénographie de cette exposition, on en parle dans un instant. Le réveil culturel, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio, ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast, ou l'écoute en ligne de l'émission disponible sur franceculture.fr. À la coordination Corinne Amard, à la prise de son Alain Joubert, et cette émission réalisée par Vincent Abouchard.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Et nous voilà dans ce magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, avec des grandes pièces et des jardins joliment taillés à la française, une terrasse somptueuse, bref, un des plus beaux musées de France se trouve à Aix-en-Provence. C'est l'hôtel de Caumont, donc le centre d'art de la ville qui accueille en ce moment et jusqu'au 24 mars l'exposition Chagall du noir et blanc à la couleur. Alors l'intitulé résume parfaitement la scénographie de l'exposition, je vous l'ai dit en préambule, puisque le visiteur est appelé à voir à travers des peintures, des dessins, des lavis, des gouaches, des sculptures, des collages et des céramiques, des œuvres plutôt de la deuxième partie de la vie artistique de Chagall depuis son retour des États-Unis en France après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à sa mort en 1985. Et tout ça se joue avec le va-et-vient entre le Chagall en noir et blanc et le Chagall qu'on connaît, c'est-à-dire celui de la couleur. Et je reçois les deux commissaires d'exposition pour nous en parler, Mairette Meyer et Ambre Gauthier. Bonjour, merci d'être venus.
Bonjour.
C'est quoi l'idée de départ de cette exposition, Mairette Meyer?
Oui, nous souhaitions quelque part retracer aussi la réflexion et l'interrogation qu'avait Marc Chagall lui-même en revenant de l'exil en 1947. C'est-à-dire qu'il était imprégné de la rencontre avec l'architecture urbaine de New York, imprégné également des mouvements artistiques qu'il avait rencontrés en Amérique, qui lui ont permis de découvrir un espace différent par rapport à celui qu'il avait habité auparavant. Et il rentre donc en France, et ce n'est pas du tout le peintre qui arrive en roi et veut à nouveau se poser en Europe avec toutes les expériences précédentes et envahir quelque part les mouvements et les expositions avec ce qu'il avait exploré. Au contraire, il se repose de nouvelles questions, surtout face aux mouvements contemporains artistiques qui remettent en question la figuration, le noir et blanc. Et donc, il se pose de nouvelles questions face à toutes ces questions et bien entendu que toutes les explorations précédentes lui servent bien entendu pour redéfinir cette nouvelle recherche, mais il repart à un point départ et au point zéro.
Je n'ai toujours pas dit que vous étiez la petite fille de Marc Chagall, Mairette Meyer. Ambre Gauthier.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, toute l'idée de cette exposition, comme l'a très bien dit Mairette, c'est de faire une plongée, en fait, dans l'œuvre de Marc Chagall en s'intéressant à la création de Marc Chagall et à la genèse de ses œuvres. Donc, dans cette exposition, on va inviter le visiteur à découvrir un parcours qui commence en noir et blanc et qui, petit à petit, intègre la couleur au fil des œuvres. Donc, le principe clé de cette exposition, c'était de faire dialoguer toutes les techniques, donc sur papier, huile sur toile, céramique, sculpture, avec cette interrogation du noir et blanc, et finalement d'essayer de comprendre ensemble comment Marc Chagall se sert du noir et blanc pour approfondir son questionnement de la couleur et finalement qu'est-ce que pour lui veut dire ce noir et blanc.
D'autant plus qu'on a l'impression que pour Chagall le noir et blanc sont deux couleurs, hein, avec autant de nuances pour le noir que pour le blanc.
Il y a davantage de couleurs dans le noir et blanc chez Marc Chagall. D'ailleurs, le noir est une couleur, correspond à une exposition qui a été organisée par la Galerie Macht en 1946. Donc, c'est une préoccupation que partageaient beaucoup d'artistes. Mais pour Chagall, non seulement il y a toutes les lumières, tous les reflets dans le noir et blanc, mais il y a une multitude de couleurs qu'il essaye toujours de retracer et de repenser à travers cette nouvelle définition du noir et blanc.
Avec des nouveaux matériaux, je suppose.
Oui, avec des nouveaux matériaux. Et donc vraiment, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est donc les premières salles commencent. La première salle commence avec des œuvres sur papier. Donc, ce qui sont les illustrations pour les contes de Boccace, donc en 1949-50. Et petit à petit, de voir dans la deuxième salle, qui est consacrée à l'atelier de Chagall, et qui intègre sculpture et céramique, de voir finalement comment sa technique de dessinateur, de vraiment le lien avec le graphisme et le noir et blanc, lui sert à enrichir sa pratique de la céramique et de la sculpture. En fait, c'est toujours un va-et-vient entre les techniques, pour finalement revenir à la peinture.
On peut pas dire que Marc Chagall a eu une période où il expérimentait le noir et blanc, hein. Et il continue à faire de la couleur parallèlement, bien sûr.
Oui, même si la couleur n'apparaît que dans la troisième salle, notamment avec une grande peinture monumentale, Les Amoureux au poteau, qui est vraiment une peinture majestueuse et absolument merveilleuse, on comprend, d'autant plus qu'on la voit en transparence à partir de la première salle, on comprend d'emblée que toutes les sculptures et toutes les recherches qu'il a faites à travers le noir et blanc et le dessin et les céramiques étaient indispensables pour arriver à cette plasticité, à cette compréhension de volume dans la couleur et dans le noir et blanc. Donc rien n'est séparé. Bien entendu, les allers-retours lui servent à avoir cette compréhension qui fait corps avec cette exploration physique de tous les matériaux.
Que représentait le noir et blanc pour Marc Chagall en Borgotier ?
Il est important de distinguer le noir et blanc pictural, enfin le noir et blanc chromatique, et le noir et blanc symbolique. Donc il est évident qu'au retour de la guerre et la réinstallation en France en 1948, Marc Chagall n'est pas le seul à se poser des questions sur le noir. Est-ce que le noir est une couleur ? Il y a eu évidemment l'exposition à la Galerie Mac, mais il y a d'autres artistes qui travaillent sur cette symbolique de la couleur. Il y a notamment Dubuffet, Rouault, plus tard Soulages. Mais pour Marc Chagall, il est évident que c'est intimement lié aussi, évidemment, à tout ce qui s'est passé pendant la guerre, et aussi un moyen finalement en pratiquant ce noir et blanc comme une forme d'exorcisme. Ça lui sert également en fait à transformer certains souvenirs, certaines choses qui sont douloureuses, en des valeurs positives et en une capacité de transformation. En fait, il arrive à transcender certaines épreuves de la guerre, épreuves personnelles, l'exil, des choses extrêmement difficiles, par cette approche du noir et blanc.
Oui, Mérette Meyer.
Oui, le noir et blanc, rappelons que la première rencontre qu'il fait avec le noir et blanc, c'est bien entendu à travers les livres religieux, la Torah. Le noir et blanc se trouve dans l'écriture, dans le graphisme, dans les enluminures, que ce soit de l'hébreu, du yiddish ou du russe un peu plus tard, parce que c'est la première langue qu'il apprend à l'école. Il est important de souligner que le noir a une signification différente selon les langues. Donc il y a tout un mélange, un mariage qui se fait entre toutes ces langues, entre toutes les symboliques, entre toutes les significations que le noir a dans les différentes langues, en dehors de la noirceur du trait qui souligne, qui grave, qui rehausse toutes ces significations. De dire aussi que en 1914, lors de la Première Guerre, donc la première rencontre avec des situations très très difficiles, en dehors des fuites auxquelles la population juive était régulièrement soumise avant la Première Guerre, il utilise le noir comme une couverture, comme une barricade, comme une protection aussi des blessés, car les soldats en fuite, les gens blessés, il arrive vraiment quelque part à sublimer les situations en traduisant les situations en surface, mais entièrement couvrante, entièrement comme si c'était des murs. Donc là aussi, on voit à quel point
convoquant les textes sacrés, du coup, hein, pour parler de cette expérience de guerre.
Oui, donc les textes sacrés se mêlent à ces situations militaires, sociopolitiques, et deviennent quelque part une arme aussi pour lui, alors qu'il n'est pas soldat.
Alors, s'il fallait parler des galoutes, expliquez-nous à partir de ce tableau.
Oui, c'est le tableau devant le tableau que la Fondation Macht a accordé à l'hôtel de Caumont. ce lieu spirituel est très très important pour créer aussi la différence entre le tableau intérieur et le tableau extérieur, car il y a différents niveaux de lecture dans ce tableau, en dehors du peintre qui est crucifié sur le tableau, qui n'a pas l'air d'être absent. Au contraire, il établit un contact avec le monde diurne qui est dans un espace clair, et le peintre avec une tête de bouc, donc toujours avec ce double profil. Donc il y a toujours une duplicité dans les tableaux de Chagall qui se mettent en exergue.
L'exposition Chagall du noir et blanc à la couleur, c'est donc à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence jusqu'au 24 mars. On sait que les tableaux, les peintures de Chagall sont autant de témoignages de ce qu'il a vu. Est-ce qu'à partir de cette période, après la guerre, il va aussi exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur ?
Évidemment que les tableaux pour Marc Chagall sont toujours des fenêtres, sont toujours des conditions de possibilité, des clés de passage vers un autre monde. Mais que ça soit avant ou après la guerre, de toute façon, dans tous ces tableaux, il y a toujours cette réunion de l'intérieur, de l'extérieur, aussi de sa vision intérieure et de sa vision extérieure. Donc évidemment qu'après la guerre, et notamment après la création de l'État d'Israël en 1948, il va y avoir encore une accentuation de ce phénomène et de cette duplicité. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'une rupture ou de quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va s'asseoir, qui va se développer, qui va grandir dans son œuvre pour atteindre des profondeurs encore plus fortes. Mais ça n'est pas un élément nouveau.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avant que les condottieries ne t'ouvrent leur château, coffre-fort et leur musée, tu vis près de Saint-Paul-de-Vence, à Hollywood en Provence, si loin de ma vie. Tu dis jamais ce que tu penses, tu souris en silence aux gens qui t'envient. Tu décores des palais, des synagogues. Moi je traîne de café en salon. Magicien, j'ai pas su être Van Gogh. Je voulais simplement être un bon clown. Tu vis près de Saint-Paul-de-Vence, Hollywood en Provence, si loin de ma vie. Tu dis jamais ce que tu penses, tu souris en silence aux gens qui t'envient.
L'hommage du fils à son père, l'hommage de David McNeil à Marc Chagall. Et je suis avec Meret Meyer et Ambre Gauthier, les deux commissaires de l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur, à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Caumont. Vous avez et l'une et l'autre à sourire en écoutant David McNeil parlant ainsi de Chagall.
Oui, personnellement, je pense que que vraiment Marc Chagall a dit ce qu'il pensait très très clairement, et l'exposition le démontre d'une manière assez poignante et assez évidente. Si l'on pense à un tableau qui est aussi monumental et emblématique dans cette exposition, l'Exode, mis à disposition par le Musée national Marc Chagall à Nice, c'est un tableau qui n'est pas du tout une redite, comme on pourrait dire, ah oui, à nouveau, il traite un sujet biblique, il l'a déjà fait depuis 30 ou 40 ans, pourquoi à nouveau ? Là, on l'a choisi, bien entendu, par rapport à la poignicité du sujet, mais aussi par rapport au traitement de l'espace qui est dans les couleurs très sombres, noires, dans lesquelles il y a un Christ, un martyr juif, c'est pas un Christ, mais bien sûr un martyr juif, le dernier des prophètes, comme tenait à préciser Chagall lui-même, qui est au milieu de cet espace en jaune lumineux, qui essaye de rassembler cette foule en déshérence et en souffrance. Alors pourquoi a-t-il remis ce sujet à la page entre 1957 et 66? La guerre était terminée, nous semblait-il. Chagall était revenu en Europe, il avait pu établir domicile dans le Midi, donc tout devrait aller bien par rapport à un continent qui était en paix. Et néanmoins, on considère et on réalise que Chagall était quelqu'un d'abord d'un éveil très particulier, qui s'informait de partout et qui avait des antennes très particulières, surtout par rapport à son
passé.
Mais
c'est l'historienne de l'art, la commissaire d'exposition qui parle, ou c'est la petite fille de Chagall qui nous dit ça ?
C'est la commissaire de l'exposition et petite fille de Marc Chagall en même temps. Je ne peux pas partager les choses, mais on peut être petite fille ou très petite fille.
Mais vous avez parlé à votre grand-père, donc, de ce qu'il faisait ou pas ?
J'ai regardé les tableaux.
D'accord.
J'ai regardé les tableaux.
Est-ce qu'il était vraiment silencieux, comme le dit David McNeil dans la chanson Chagall, ou est-ce qu'il aimait aussi parler de ses œuvres ? Est-ce qu'il expliquait ses œuvres, Chagall ?
Non. En effet, il ne parlait pas de ses tableaux, mais il disait « vous allez comprendre mes tableaux ». Donc, ce qui disait tout. Quand j'étais enfant, c'est vrai, on avait la chance d'être entouré de certains tableaux qui sont aujourd'hui au Musée d'Art Moderne à Paris, qui étaient des portraits emblématiques. Il me parlait davantage que mon grand-père me parlait. Donc, il est évident que le tableau de Chagall me parlait plus que le grand-père me parlait, si je peux répondre ainsi.
Ambre Gauthier, après la guerre, donc Chagall s'installe dans le sud de la France, comme on l'a entendu aussi dans la chanson de David McNeil. Est-ce que ce lieu nouveau va avoir une importance dans son travail?
Oui, évidemment. Donc l'installation avant et après à Saint-Paul-de-Vence en 1966 va évidemment aller de pair avec une création renouvelée. Donc découverte des années méditerranéennes aussi. Donc je pense aussi à toute la communauté d'artistes qui vit déjà à Saint-Paul-de-Vence, qui fréquente la Colombe, mais pas uniquement. Ça coïncide aussi avec une phase de l'œuvre de Marc Chagall qui est, on peut dire, peut-être en un sens plus apaisé d'un point de vue personnel. Donc il s'est remarié avec Valentina Brodsky. Et c'est vrai que certaines toiles, même si avec des lectures multiples, je pense notamment au couple au-dessus de Saint-Paul, donc une toile que vous pourrez voir à Aix, soulignent cette profusion de lumière, de couleurs, la végétation luxuriante, la joie de vivre, si on peut y exprimer. Cela ainsi, avec donc des thèmes autour du couple, des amoureux, qui sont mis en exergue, des portraits de Vava, des bouquets de fleurs luxuriants. Et en même temps, tout ça est aussi une symbolique de façade. Et comme souvent dans l'art de Marc Chagall, évidemment, la représentation du couple, du bouquet ou même de la ville de Saint-Paul-de-Vence prend aussi une dimension supplémentaire. Donc Saint-Paul-de-Vence, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Il y a aussi une association entre les lieux, les espaces, les temps, toujours. Et finalement, ce couple couple, c'était ce moyen aussi toujours de se représenter et qui le relie aussi à ses origines et aux, on veut dire, aux premières représentations de couple qu'il a pu faire en Russie. Finalement, tous ces éléments et ces symboles finissent par tisser des toiles extrêmement serrées et des univers très recomposés où tous les temps se mélangent, où toutes les significations et les cultures aussi. Donc
ça vous parlez plus de la peinture. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour la sculpture là ?
Les premières céramiques datent de 1949 et les premières sculptures de 1952. Donc dans l'exposition, on présente des sculptures des années 50 jusqu'aux années 70 et des céramiques autour des années 50 et 60. Et c'est vrai que le travail graphique effectué sur les lavis et les peintures donc est d'abord perceptible sur la céramique et ensuite sur les sculptures. Et après, on a ce va-et-vient entre les techniques et par exemple sur les céramiques. Donc je pense notamment au grand personnage, une céramique qui date de 1962, qui est dans l'exposition, et qui représente un double personnage assis, qui fait référence à un tableau de Gauguin. Donc toujours le thème du double profil dans l'œuvre de Marc Chagall. Et sur cette céramique, vous pourrez voir à quel point il y a un vrai travail de peintre, un travail de graphiste qui est réalisé par-dessus la céramique. Donc c'est une pièce qui est retaillée, qui est resculptée, qui est griffée, qui est repeinte après cuisson. Donc vous avez vraiment ce lien en fait entre les techniques qui est effectué par la céramique.
C'est le côté un peu atelier de Chagall qui est présent dans cette exposition. Oui, Mérette Meyer.
Oui, on voit aussi l'inspiration ou l'imprégnation du travail sur le vitrail, même si le vitrail manque dans cette exposition, car c'était pas le sujet, même si la recherche de la lumière l'est dans le noir et blanc et la couleur. Mais on voit à travers des grands tableaux qui représentent plutôt de la grisaille, comme Job, Don Quichotte ou même Souvenir de la flûte enchantée, ce sont des grandes toiles qui sont dans cette exposition, à quel point le travail sur la matière qui devient transparente et dans laquelle il a gravé avec de l'acide pour faire transparaître de la lumière, comment il le traduit sur une toile. Donc il y a toujours aussi ces allers-retours entre différents matériaux et la recherche de transposition sur un support qui doit devenir le plus transparent possible.
Alors on parle aussi de la couleur, de cette définition de la couleur. La couleur doit être pénétrante, comme lorsqu'on marche sur un tapis épais, indiqué Chagall. S'il fallait terminer avec vous, Ambre Gauthier et Mérette Meyer, cette déambulation dans cette exposition, plus en avance, plus, vous direz.
Oui, on arrive à découvrir des œuvres en couleur en s'initiant vraiment à une nouvelle définition de couleur. Donc on ne retrouve pas le coloriste tel qu'on le connaissait auparavant, avant de rentrer dans l'exposition. Au contraire, on suit le cheminement qu'a fait l'artiste, qu'on a essayé de démontrer dans cette exposition, pour ensuite comprendre à quel point cette nouvelle définition de la plasticité et de l'élément de composition que la surface en couleur constituait, indépendamment du fait que les pigments dont il était à la recherche représenter un élément primordial, constitue un élément tout à fait nouveau. Et donc, on est amené à découvrir une couleur qui est rayonnante, explosive, comme on ne l'avait jamais vue auparavant.
Donc, on imagine Chagall expérimentant plusieurs tons de couleurs pour arriver à la couleur qui est désirée, c'est ça ?
Il y a plusieurs choses. En fait, dans les deux dernières salles de l'exposition, le visiteur va être invité à découvrir donc cette couleur enrichie, renouvelée par la pratique du noir et blanc. Donc, une des deux salles présente des toiles qui sont d'inspiration monochrome. Donc, vous allez avoir une toile qui explore les tonalités de bleu, une toile qui explore les tonalités de violet et de rouge, qui est la Bastille. Et en fait, l'idée aussi de cette salle, c'était de montrer des approches simultanées, donc de coloris, et de voir que quand Marc Chagall explore aussi une couleur, il explore toutes les tonalités, les nuances de couleur, par exemple sur une même toile. Et que ces notions de contraste, toutes ces nuances, ces couleurs distillées sur la toile, résultent en fait de cette meilleure compréhension du noir et blanc. Et donc dans la dernière salle de l'exposition, vous pourrez découvrir des collages préparatoires qui sont exposés avec des tableaux monumentaux. Parce qu'à partir des années 1968-1970, Chagall continue sa progression, son évolution et la transformation aussi de son procédé de création. Et il crée d'après des collages préparatoires, donc qui sont des petits formats absolument superbes, sur lesquels se mêlent des papiers découpés, des végétaux, des tissus. Voilà, vraiment toujours l'approche textile, le lien avec les ballets, les opéras. Et d'un tout petit format A4, Marc Chagall arrive à matérialiser et à concevoir une toile vraiment de très grand format sur plusieurs mètres. Voilà. Et dans cette dernière salle, c'est vraiment là où toute la genèse du noir et blanc et ses expérimentations chromatiques trouvent vraiment le plus grand écho et sont le plus perceptibles.
Mérette Meyer ?
Oui, c'est justement dans la dernière salle que le visiteur est amené à comprendre que tous ces refus d'acquis qu'il a traversés à travers cette vie depuis son retour de l'exil lui ont permis d'arriver à un résultat vraiment absolument festif qu'on arrive soi-même aussi à traverser. Et on est appelé en tant que visiteur à faire peut-être aussi le même parcours et à se poser les mêmes questions. Est-ce que tous les acquis de la veille, est-ce qu'ils ne méritent pas d'être re-questionnés et remis en doute? En tout cas, c'est quelque part la recherche qu'on est amené à faire. Et moi, en tant que co-commissaire et en tant que petite fille, c'est ce qui m'a vraiment motivée.
Merci Mérette Meyer. Et merci aussi à Ambre Gauthier d'être passée ce matin pour nous parler de l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur jusqu'au 24 mars à l'hôtel de Comans et bien sûr à Aix-en-Provence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.